Pigeot Immobilier, La Française Immobilière, Habitants, Rennes Parc Expo, le groupe Pigeot, des métiers multiples, un acteur unique. Le groupe Pigeot, partenaire officiel des Rouges et Noirs.
Coup d'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie. Fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
Madame, monsieur, bonjour. On est ravis de vous retrouver sur le plateau de Pleine Lucarne. On est d'autant plus ravis que cela se fait au surlendemain d'une victoire à Nantes. Ce n'est jamais neutre. Il ne faut pas banaliser les victoires à Nantes, même si ce n'est pas non plus l'euphorie après ce succès 3-0 à la Beaujoire. On va revenir sur ce match, sur les choix de Julien Stéphan. Et puis on parlera évidemment de l'autre derby qui arrive dimanche. C'est Brest qui déboule. Brest qui... stagne un peu au classement ces temps-ci, un petit peu seulement. Et on débriefe tout ça avec Christophe Penven de TVR, le seul finalement qui soit glabre sur ce plateau. Salut Christophe.
Salut Vincent.
Oui, mais les trois quarts de mes invités sont barbus, à commencer par le lundi, c'est Rosie. C'est François Rosie de France Bleu qui est avec nous. Salut François.
Salut Vincent.
Impressionné d'être en face de vous, François. On a Frédéric Happe de l'AFP. C'est la première fois que vous vous retrouvez sur le même plateau. Incroyable.
Oui. Salut Fred. Il y en a plus beaucoup des premières fois.
Et on est aussi... pour nous accompagner cette semaine avec Guillaume Lenné de West France. Salut Guillaume.
Salut Vincent, salut tout le monde.
Et on est ravis de vous avoir les uns les autres. On ne va pas perdre de temps, on va regarder ce match somptueux, ce derby de légende entre Nantes et Rennes. Il faisait beau, il n'y avait pas de tribune noire, mais ils ont encore de la chance d'avoir des supporters, les Nantais, vu le football qu'ils proposent. Les entraîneurs s'apprécient. Et finalement, la première action, elle arrive par les Nantais. Regardez l'attitude de Guéladoué qui se fait un peu... voilà, oui, ben, finalement, un tir qui ne donne rien. Il ne se passe pratiquement rien jusqu'à la 27e minute. Et ce poteau bar de... Désiré Doué et barre poteau, mais regardez, hein, c'est le gardien qui la touche, hein. Sinon ça prenait la direction de la lucarne. Doué qui sera le seul véritable animateur de cette première période, là il déborde, mais son centre en retrait ne trouve personne. On vous montre ça parce qu'on n'a pas grand chose à vous montrer. Il y a un dégagement, une tête de Terrier, une reprise comme elle vient de Blas, évidemment pas cadrée, et à la mi-temps c'est 0-0 et on s'ennuie ferme dans ce match. Alors, on se dit, les Rennais ne vont jamais y arriver, même là, quand ils ont une occasion en or, comme ici avec Kalimuendo qui ne cadre pas. Heureusement, assez vite, les Rennais vont se mettre dans le bon sens. Centre en retrait de Guéladoué, reprise de Kalimuendo, c'est très bien joué. On voit le bon appel. On voit surtout le bon déplacement de Kalimuendo qui met son défenseur dans le vent. Et puis juste après, alors moi je trouve que ça c'est magnifique, le ballon dosé de Bourigeau pour Kalimuendo, faute de Lafont qui ne conteste pas d'ailleurs, le pénalty est évident. Et une nouvelle fois bien transformé par Bourigeau qui était entré en jeu quelques minutes seulement auparavant. Tout ça devant le petit Cobrenais. Derrière le but de Lafont, ça fait toujours plaisir. Il y a un arrêt magnifique de Mandanda sur une tête de Mohamed, consécutive à un corner. On reviendra sur la façon dont le corner a été concédé, mais c'est un des plus beaux arrêts de la saison pour moi. Et puis alors, ce but qui doit tout à Guiri, prise de balle au milieu de terrain, accélération, on trouve dans un trou de souris Désiré Doué qui remet à l'attaquant qui a suivi. Il est jeune papa. Il fait ça devant ses supporters, c'est magnifique. Regardez ce ballon et ce 1-2 magnifique devant des Nantais qui ne savent plus où ils sont. Des Nantais qui s'inclinent sans avoir rien montré. Et alors évidemment, immédiatement, on regarde le classement parce que ça a été finalement plutôt un bon week-end. Regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que finalement, le match nul de Marseille à Toulouse est une bonne chose, parce que Toulouse était capable de revenir pleine balle dans le jeu. Et on voit bien que Rennes est en train de disputer un mini-championnat avec Lens, Lyon, Marseille, peut-être Reims également. Est-ce que vous pensez, les uns et les autres, que Nice est aussi dans ce mini-championnat que dispute Rennes?
Nice joue mercredi un match en retard à Marseille.
Oui.
Donc qu'est-ce qu'il faut espérer? On pourra déjà
voilà, parce que on peut le remettre encore ce classement. Rennes n'a pas son destin dans ses pieds. Rennes est certes 7e, mais Marseille a un match en retard.
Oui, mais... Ouais, ça dépendra du résultat de Marseille, effectivement,
oui.
comme disait Guillaume.
Mais donc, aujourd'hui, à l'instant T où nous parlons, on pourrait se dire Rennes est 7e, si Rennes fait le grand chelem, Rennes sera européen. Ce n'est pas le cas.
Ils ont des confrontations directes, notamment contre Lens, donc enfin, ils l'ont en partie quand même, mais c'est sûr qu'il faudra compter sur des résultats favorables par ailleurs.
Enfin, mais il y a beaucoup de confrontations directes.
Hein. Oui, et puis si Rennes fait carton plein, enfin si Rennes gagne les 4 derniers matchs, ils seront européens. Moi, je pense que même s'ils n'ont pas effectivement, concrètement, comptablement parlant, leur destin entre les mains, voilà, avec Lens effectivement à domicile, Brest, Reims en plus à l'extérieur pour finir hein, quand même. S'ils gagnent les 4 matchs, ils seront européens.
Ouais. Bon, il faudra gagner les 4 matchs, ce qui est loin d'être gagné quand même.
Oui,
si on regarde le sprint final de la saison dernière. Rennes remporte ses 4 derniers matchs. Avant les 4 derniers matchs, Rennes avait 8 points de retard sur Monaco, hein, qui était quatrième.
Est-ce que Rennes était dans cette dynamique Est-ce que Rennes était dans cette dynamique un peu mollassonne?
Sur une défaite, une victoire, je crois. Une victoire, une défaite.
Ouais.
Alors après ces matchs de la semaine, effectivement, qu'on va observer, il faut regarder tout de suite la prochaine journée, parce qu'il y a quand même du Marseille-Lens, donc voilà, concurrent direct à Rennes.
Oui, 20h30 dimanche, 21h dimanche.
Lyon, on peut considérer aussi pour la 7e place un concurrent, reçoit Monaco. Strasbourg-Nice, voilà, bonne chance à Nice, hein, parce que Strasbourg jouera son maintien sur ce match-là. Et Clermont-Reims, bon voilà, pour Reims, c'est un peu plus facile, même si Reims a pris une petite claque en perdant chez lui face à Montpellier ce week-end. Donc voilà, déjà la prochaine journée, on va en dire beaucoup, évidemment, après Rennes-Brest pour nous.
Qu'est-ce que Rennes doit viser si on est modeste et modestement ambitieux?
La 7e place. Au mieux la 6e. A priori, au mieux.
Et Christophe, il croit à la 6e, et je crois même qu'il croit à la 5e.
Ça va pas ou quoi?
Je vois plus optimiste qu'il n'est vraiment.
Non, ben mercredi, si Nice gagne à Marseille, c'est fini, voilà, pour la 5e place, c'est sûr. Mais oui, aller chercher Lens, puisque Rennes va recevoir Lens, oui, c'est encore possible. S'accrocher d'abord à la 7e, et après, pourquoi pas aller chercher la 6e, oui.
Mais je crois qu'il faudra voir match par match de toute façon.
Enfin,
cette équipe, elle nous a prouvé ce groupe très surprenant, comme dit. Voilà, c'est une phrase de football.
Match après match.
Non, mais on saura jamais. Enfin, on peut se projeter à chaque fois et on a vu toutes les projections qu'on a pu faire semaine après semaine.
Oui.
Elles s'envolent à chaque match passé. Donc voilà, il faut. Je crois qu'il faut vraiment attendre de voir ce que Rennes va faire contre Brest, notamment ce week-end.
C'est lisible.
Ce groupe est surprenant.
Rennes est lisible et la Ligue 1 est lisible en plus, puisque effectivement. Il y a des résultats tous les week-ends surprenants. Que Montpellier, qui est en forme, gagne à Reims, mais mine de rien, bon, c'était pas écrit dans le marbre quand même.
Non, c'est vrai. Donc, est-ce que les pourcentages, alors je dis ça tous les lundis, les gens doivent se dire.
Faudrait faire à la fin une infographie de comment les pourcentages ont évolué à la
Le pourcentage de chances d'être européen de Rennes a progressé dans vos têtes depuis le match de...
Vous êtes 7e aujourd'hui. Et bon, alors encore une fois, il y a effectivement ce match en retard Marseille-Nice qui peut vous enlever de cette 7e place. Mais c'est à partir du moment où vous êtes 7e, et si Paris gagne la Coupe de France, la 7e place est européenne, votre pourcentage il a plus qu'augmenté. Vous êtes quasiment aujourd'hui sur une place européenne.
Pour la 7e, je vois 50% de chance. Pour la 7e. Pour la 6e, oui, ça peut. Ça
d'accord.
Vous avez dit tabac, j'avais trouvé la semaine dernière sur les pourcentages.
Moi, 15%,
sachant ce qu'on a dit avant, sachant qu'on sait
que chaque
week-end,
20,
voilà, 20, ça me paraît faible. Non, il y a au moins 30%. Vous êtes 7e. Il y a quand même clairement des possibilités. Alors évidemment, il faut battre Brest. Il faut battre Brest, oui, ça c'est sûr. Il faut battre Brest le dimanche.
Je remets dans le contexte un certain truc. Hein.
C'était mi-décembre.
13e, vous avez dit mi-décembre.
Mi-décembre, bravo Julien Stéphane d'avoir fait remonter cette équipe. Qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'on parle de Rennes est illisible, la Ligue 1 est illisible, mais elle est encore moins lisible quand on décale le calendrier. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces trucs-là qui arrivent là?
C'est scandaleux, mais alors, pour le coup, Rennes n'est pas extrêmement concerné. On a cette chance-là, et d'ailleurs, ça va peut-être plutôt arranger le Stade Rennais qui ira à Reims, pour qui ce sera le troisième match en 6 ou 7 jours, je crois, parce qu'ils ont un match qui a été décalé. Mais c'est scandaleux, parce que les équipes qui jouent l'Europe n'ont pas à être avantagées de la sorte. Elles le sont parce que déjà, elles ont souvent plus de budget. Hein. Quand vous jouez l'Europe, vous avez plus de sous. Donc, vous devez vous construire un effectif capable d'affronter les échéances européennes. Ça se fait dans aucun autre grand championnat et la Ligue 1 n'est pas un grand championnat parce qu'elle fait ça. Pour moi, c'est la preuve d'être un petit championnat qui est obligé de faire des petits arrangements comme ça et surtout, ça fausse la course aussi au maintien pour les autres.
Bah oui, on est passé à 18 équipes, il n'y a plus de Coupe de la Ligue, on ne joue plus.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est assez incompréhensible. De toute façon, ça n'a pas commencé là maintenant. Hein. On se souvient aussi du match de Coupe de France du PSG qui avait été décalé alors qu'ils avaient moins de matchs que Rennes à jouer au cours du mois de février, si je ne dis pas de bêtises. Donc on voit bien, mais on y reviendra sans doute en parlant de Brest, qu'il y a un championnat pour les gros et un championnat pour les petits.
mais peut-être quand même de voir.
Et pour les tout petits.
De voir, alors que Lille n'a vraiment pas eu de chance, mais de voir PSG et Marseille en demi-finale de la Coupe d'Europe, c'est plutôt un signe positif et un truc que, on va dire, la Ligue a eu plutôt raison. Et je pense que même pour les droits télé, ça peut être une bonne chose de voir des deux équipes qui vont loin en Coupe d'Europe. Donc ça leur donne peut-être raison, mais dans l'équité, je suis d'accord, c'est anormal, surtout pour les équipes qui
vont être en match. Rennes en bénéficier un peu indirectement. On verra en fonction de ce que fait Reims sur la fin de saison, par exemple. Mais il ne faut pas oublier, par exemple, que Reims jouera 3 jours avant la dernière journée du coup contre Rennes, ce qui normalement n'aurait jamais dû arriver puisque c'est interdit à la base par les règlements à géométrie variable de nos amis de la Ligue de football professionnelle.
Bon, peut-être alors va-t-on pouvoir en bénéficier.
Mais les gens qui se déplacent aussi pour en terminer, parce qu'il y a aussi des supporters qui se déplacent, qui organisent des déplacements, pas que les supporters d'ailleurs. Oui. On a des confrères journalistes qui payent de leur poche pour leurs déplacements et que ça embête un peu quoi, quand vous devez faire
tout changer
au dernier moment.
Ouais, c'est... Bon, ça montre bien que c'est illisible. On en vient à ce match et à ce succès 3-0. Et je vous pose une question. Pourquoi, finalement, est-on aussi mesuré dans le succès ? Il n'y a pas eu de débordement de joie.
Moi, je dirais déjà, la faiblesse de l'opposition explique ça en partie. Gagner 3-0, c'est bien, mais gagner 3-0 contre Nantes, c'est pas non plus... voilà. Surtout qu'après le premier but, on a bien senti que ça lâchait complètement du côté des Canaries, à part la tête de Mostafa Mohamed. Donc je pense que c'est difficile de voir dans ce match-là un chef-d'œuvre aussi de football de la part de Rennes. Ils ont été sérieux, ils ont été appliqués, ils ont été réalistes. Très bien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est enchaîner. Et donc, voilà, on se garde en réserve pour les 4 matchs qui restent.
C'est toujours le match d'après avec Rennes hein, qui compte.
Oui.
C'est toujours celui-là qu'on veut voir, en fait. Le match d'après, vous avez raté 3 grandes opportunités. Strasbourg, vous avez raté Toulouse, vous avez raté Monaco. Ça fait 3 fois quand même que vous aviez l'opportunité de raccrocher le top 6, vous l'avez loupé. Là, avec cette victoire, ça permet quand même d'espérer contre Brest. C'est contre Brest qu'on va savoir si le rebond est réel, en fait. C'est là, il y aura que ça comme réponse.
Ouais, après, il n'y a pas de débordement de joie, il y en a eu quand même, hein, Vincent. Il y a quand même des supporters qui sont allés accueillir les joueurs à la Pivardière. Moi, je trouve que voilà, il y a quand même des gens qui sont encore heureux de gagner dans le derby 3-0. Alors, effectivement, la faiblesse de Nantes, comme vous l'avez dit tous les deux, elle change un peu notre point de vue sur la qualité de la performance rennaise. Mais...
Alors, on va vous dire, est-ce que c'est Nantes qui est faible ou est-ce que c'est Rennes qui a rendu Nantes faible ?
Bah, ça peut être les deux. Hein. Peut-être qu'on les a un peu annulés. Alors. Mais bon, quand même, ils ont mis zéro intensité. Hein. Puis depuis le début du match, quand même. Et ça, face à Brest, on en reparlera, mais à mon avis, ce sera autre chose.
Ouais. Mais on craignait le pire. On craignait peut-être la fameuse fin de saison en roue libre du Stade Rennais. Ils ont su réagir. Ça, c'est un point positif. Après, effectivement... laisser jouer le Stade Rennais comme ils ont laissé jouer les Nantais et le Stade Rennais, ça c'est pas normal. Matuziwa et Santa Maria, ils ont joué dans un fauteuil, jamais pressé, alors que on a vu cette année cette équipe du Stade Rennais, quand elle est pressée, agressée, je pense, bon alors ok c'était le PSG, mais voilà, quand tu te fais agresser, le Stade Rennais est en difficulté. Terrier, Matuziwa, Santa Maria, ils ont joué en contrôle, on oriente, voilà, on n'est pas sous pression. Voilà. C'est pour ça que je dis que le reste, ça va être vraiment autre chose.
Finalement, c'était l'adversaire idéal à l'instant T pour le Stade Rennais Nantes. On a toujours un peu cette angoisse des derbies, mais les derbies d'antan sont bien loin, quoi.
Oui, non, mais je pense que oui, c'était comme calendrier, c'était intéressant. Déjà, c'est une équipe contre laquelle Rennes a une motivation naturelle et des obligations, on va dire, morales.
Oui.
c'est une équipe qui est vraiment dans le dur, encore plus à domicile où il est resté sur 8 défaites de rang. Donc bon, effectivement, mais encore faut-il savoir saisir ce genre d'opportunité. Donc on ne va pas non plus banaliser le fait que Rennes a réussi à prendre les points lorsqu'on attendait, à marquer aussi, ce qui pourrait éventuellement avoir son importance. Donc, c'est quand même une opération positive, on ne va pas non plus faire la tronche. Mais,
oui,
la frustration, c'est que cette équipe, en fait, on a l'impression qu'elle a besoin, comme dit Frédéric, soit d'une obligation morale ou soit d'un adversaire un peu prestigieux, pour exister, quoi. Elle n'existe pas contre Strasbourg et Toulouse. Comme si ça la motivait pas de jouer ces matchs-là, d'aller à Strasbourg ou de recevoir Toulouse. Contre Marseille, elle existe à domicile. Contre Nantes, parce que c'est le derby, elle existe. Et c'est un peu pénible d'avoir besoin de ces ressorts de motivation. Dès qu'il n'y a pas de ressort évident de motivation, elle n'est pas capable de se mettre elle-même en action. Et ça, c'est un peu...
Est-ce que vous êtes en train de me dire que cette victoire, finalement, elle n'est pas rassurante ? Parce qu'il y a des victoires qui sont rassurantes. On se dit, non, ah ben ça y est, c'est...
Si vous prenez les 45 premières minutes, oui. Là, vous dites, bah, Rennes est toujours un peu malade du match d'avant, n'ose pas, joue avec le frein à main. Alors, t'es en maîtrise collective, mais ils vont pas au bout des choses. Et donc, on s'est dit, oula, ça peut être piégeux comme match. Quand tu vois la deuxième, tu dis, ok, cette équipe peut finir son sprint final comme on peut l'attendre. Et ça, c'est rassurant.
Il y en a un qui est content, c'est Omari. Il dit, c'est la victoire de toute une équipe. Il est satisfait. Il nous l'a dit à la fin du match.
Ça fait du bien à tout le monde, cette victoire. Ouais. Les attaquants, je pense que c'est plutôt l'équipe. Parce qu'on prenait beaucoup de buts aussi, il ne faut pas cracher sur les attaquants. Et ça va faire du bien à tout le monde. Un match où on gagne 3-0, on marque beaucoup de buts, on n'en prend pas. Et défensivement, on a été bon en équipe. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde dans la tête et ça permettra de mieux préparer le prochain match.
Voilà, et ce sourire est communicatif. Non, je plaisante parce qu'il est concentré sur ce qu'il va dire. Il avait le soleil dans le visage, je suis mauvaise langue. En tout cas, il y a un truc positif. On sait aujourd'hui que Rennes ne va pas finir en roue libre.
Bah c'est ça la bonne nouvelle du week-end, c'était l'enjeu de ce match à Nantes. Il n'y avait pas d'autre enjeu. C'est pas à Nantes que vous avez gagné votre qualification européenne potentielle. Vous allez la gagner contre Brest, peut-être contre Lens, oui, si vous réussissez. Mais là, le seul enjeu était celui-là, éviter de finir en roue libre. Donc oui, pour le coup, c'est pour ça que c'est rassurant. À ce stade de la saison, il n'y a pas de victoire rassurante ou pas rassurante, il y a des victoires. Il y a faire tourner le compteur parce que ça va se jouer à rien.
Ouais, ça va se jouer à rien. Et alors, on ne sait pas si les Rennais vont gagner 1, 2, 3 ou 4 matchs. On a posé la question, et vous allez réagir sans doute au propos de Julien Stéphan. On lui a dit, alors ton équipe, tu la sens prête à aller jusqu'au bout, à fond, en Europe. Écoutez sa réponse, c'est assez désarmant.
Ce groupe est tellement surprenant que je ne peux pas te dire, j'en sais rien. Voilà, je vais être très honnête, j'en sais rien. Et préférer me concentrer plutôt que de spéculer sur les 4 derniers matchs, se concentrer sur déjà l'analyse de celui-ci, et puis ensuite sur très vite sur la projection du match de Brest.
C'est fou. Le coach ne sait pas comment peut se comporter son équipe à l'avenir.
Mais il a raison.
Ouais. D'un nous non plus. Hein.
C'est fâcheux, c'est très fâcheux, mais il a raison.
C'est ouais. Fâcheux, ouais. C'est rare d'entendre ça.
Elle a besoin d'être dos au mur un peu cette équipe, de se mettre très dans la merde, hein. Avec Christophe, on a discuté avec quelqu'un aussi du club qui nous a dit ça et que ça peinait, que ça énervait beaucoup. Ils m'énervent ces joueurs parce qu'ils ont besoin d'être vraiment dans la merde pour faire les efforts et faire les matchs qu'il faut. Mais donc oui, il a raison, Julien Stéphan. On n'a aucune idée de ce que cette équipe elle peut montrer au match d'après. Quoi.
Mais c'est une équipe, en fait, tout simplement, qui n'a pas la mentalité de ce refus de la défaite qu'on a pu connaître. Moi, j'aime bien revenir à cette saison 2018-2019, quand tu as gagné la Coupe de France. On sentait un refus de la défaite. Ok, alors, on gagnait pas tous les matchs. Non, mais il y avait quand même, dans les moments importants, les moments décisifs, notamment ce parcours en Coupe de France, un refus de la défaite d'aller chercher quelque chose. Je sens pas de leader dans ce groupe qui est capable d'emmener ça pour... Alors, c'est pour ça que j'ai des doutes, évidemment, et qu'elle est illisible, cette équipe.
De toute façon, les constats structurants sur cette équipe de Rennes, ils les ont pas changés avec Nantes. Hein, et quoi qu'il arrive sur la fin de saison, les constats, ils resteront. C'est-à-dire que cet effectif, il reste malgré tout relativement bancal. C'est une vérité. Il manque de leadership. Ouais. Il manque, voilà. Ouais. Les constats qu'on a fait après Toulouse, ils restent valables avant. Ils étaient, on l'a répété 10 fois, 20 fois peut-être, depuis le début de saison.
Et on a cru l'entendre à mi-mot dans la conférence de presse d'avant-match de Julien Stéphan. Enfin, c'est peut-être moi qui l'ai interprété comme ça. Comme quoi, son effectif est peut-être pas tout à fait bâti pour les ambitions de Ligue des Champions annoncées en début de saison.
Alors, il s'est défendu de critiquer qui que ce soit, mais au fond, il pose quand même une pierre dans le jardin de ses dirigeants, moi, je trouve. Alors après, c'est l'interprétation de chacun, mais il dit qu'il faut des objectifs, mais les corréler avec la qualité d'un effectif. Voilà. Et là, en l'occurrence, il sous-entend que ce n'est pas forcément le cas.
D'accord, Fred.
Oui, tout à fait. Mais le problème, c'est quand on fixe des objectifs avant d'avoir fini son recrutement, parce que le recrutement, ça reste quand même quelque chose d'aléatoire, qu'on le veuille ou non. Alors oui, on ne peut pas dire aujourd'hui que ça a été une réussite. Le recrutement, ce serait quand même gonflé de dire ça. Mais en même temps, ce n'est pas simple non plus. Ça ne va pas de soi de trouver des bons joueurs. Il y a Matic qui a fait flop. Voilà, il y a des tas de raisons et qui ne sont pas forcément non plus du ressort des dirigeants en soi. Mais c'est vrai que annoncer de telles ambitions et au final faire ce mercato-là, il aurait peut-être fallu avoir une communication de correction très rapide pour dire que bon, finalement, ça va être un peu plus compliqué.
Alors, on accélère encore parce qu'il faut qu'on parle de Brest hein, avant la fin de l'émission, même si on a le temps. Pourquoi Bourigeaud, Guéry Et Théâtre débute-t-il sur le banc?
Bah, Gouiri, c'était Gouiri. Il avait rejoint le groupe le matin même parce qu'il avait été papa dans la nuit précédente. Donc l'excuse est recevable, je pense. Même oui. si on n'est pas certain
prévu,
non plus.
Je crois.
Ouais, voilà, c'était pas non plus certain qui démarre. Théâtre, de ce que je comprends, Julien Stéphan comptait beaucoup sur lui pour être un leader dans ce groupe à son arrivée parce qu'il avait bien vu le caractère du Belge. Et aujourd'hui, il constate que malheureusement, il utilise peut-être un peu trop son caractère de manière négative auprès de ses partenaires. Il y a souvent un langage corporel extrêmement virulent. Parfois, on voit même du terrain qu'il est en train des tribunes, qu'il est en train d'engueuler ses coéquipiers, qu'il est un peu frustré. Et c'est quelqu'un qui a du caractère, qui a du charisme. On sent qu'il a de l'oralité. Enfin, quand il va en zone mixte, il a un peu de verbe, Arthur Théâtre. Et malheureusement, aujourd'hui, en tout cas, il n'utilise pas toutes ces qualités-là.
Il serait
faire quelque chose de positif, ça pourrait être un très bon leader. Je pense qu'il a des qualités. Et je pense que malheureusement, il est négatif.
Il est négatif aujourd'hui. Peut-être pour certains et pour le caractère et le profil de ses coéquipiers et ceux qui jouent autour de lui. Parce que c'est un autre problème. On peut avoir des caractères de cochon, et effectivement, ce que dit François, c'est exact. Il y a d'autres footballeurs comme ça qui sont dans d'autres clubs, pour autant qu'ils jouent et qui sont des leaders. Parce qu'autour, les gens acceptent ça, peuvent accepter ça. On les profite pour encaisser justement d'attitude parfois, voilà, et ou que Théâtre est renvoyé.
Positif quand même.
Oui, mais parce il peut être surveillé dans ses 22, et puis ça peut aussi créer de la, un peu d'émulation, un peu de. Après, je dis pas que Théâtre c'est très bien ce qu'il fait. Je pense qu'effectivement, comme dit François, il a bien résumé les choix de Stéphane, c'est qu'aujourd'hui, il faut tirer davantage positivement les autres vers le haut.
Ouais. Comme on voit, Arnaud Marie est jamais meilleur quand Arthur Théâtre n'est pas là. C'est terrible. Mais les deux derniers clean sheets du Stade Rennais, c'est sans Arthur Théâtre, donc c'est contre Marseille et contre Nantes, même si Arthur Théâtre est rentré en fin de match. Mais à chaque fois, c'est la charnière au Marie-Hou, et je crois que Mohamed Omari est plus à l'aise des cartes sur théâtre et pas à ses côtés en charnière.
Et comme je dis souvent, pour être un leader, il faut être irréprochable sur le terrain. Malheureusement, il n'y a pas un joueur dans cet effectif qui est irréprochable sur la saison. Donc, qui peut être leader de cette équipe? Théâtre, ok, naturellement, par son caractère, mais est-ce qu'il a été irréprochable toute la saison? Voilà, pour moi, c'était quand même un joueur clé, un joueur où j'étais étonné de le voir sortir de cette équipe du 11, mais comme on l'a dit, s'il envoie des ondes négatives, il faut faire des choix.
En parlant, c'est quand même pas le pire de la saison de Rennes, même contre Toulouse, moi je suis désolé, effectivement, il est pas génial, il est pas bon. J'en ai vu d'autres, il me semble, défensivement notamment, qui ont été pires.
Oui. Un leader naturel et à qui on peut pas reprocher grand-chose, c'est Steve Mandanda. Voilà.
Oui.
Si vous me dites que Steve Mandanda rate sa saison.
Moi, je me pose quand même la question.
Quelle est l'influence de Steve Mandanda?
Un gardien, en général, on n'aime pas trop mettre le gardien capitaine parce qu'il est assez loin d'une bonne partie des joueurs. Et justement, moi, j'ai pas l'impression qu'il rayonne tant au-delà de ses 6 mètres. Quoi. Et c'est un problème parce que les défenseurs, en général, ils sont plutôt.
On nous dit qu'il rayonne dans le vestiaire.
C'est pas pour le critiquer. Mais je
suis pas tout à fait d'accord avec lui.
Moi, je trouve qu'au contraire, moi, ce qui m'a frappé, c'est le dernier match.
Moi, je suis assez d'accord avec Fred, mais j'accepte le débat.
Je trouve que sur la bonne période de Rennes.
Beaucoup.
Et sur la bonne période de Rennes, depuis qu'il a retrouvé la forme, en gros, moi je le trouve beaucoup plus expressif et vocal et capable d'aller un peu engueuler les joueurs. Contre Nantes, au début du match, dans le premier quart d'heure, il fait une sortie à un moment donné, il va engueuler la défense parce qu'il y avait une erreur de positionnement. Voilà. Ça, je le voyais pas forcément.
Mais parce que ses performances lui permettent aussi.
Voilà, exactement.
Quand ses performances n'étaient pas bonnes, il se sentait peut-être beaucoup moins légitime pour aller.
Par contre, c'est un leader par l'exemple. C'est vrai qu'il y a des personnes, c'est un leader par l'exemple, parce que c'est l'un des rares à tenir son niveau et à faire des actions décisives quasiment à tous les matchs.
En tout cas, Rennes n'a pas pris de but. On y reviendra peut-être en parlant des joueurs. Et Rennes en a marqué 3. On va les revoir. C'est 3 beaux buts en plus. Ces 3 buts qui sont construits. Là, l'arbitre est très malin. Il laisse l'avantage.
Et la passivité de Nantes. Ça trottine.
Alors j'ai cru qu'il allait rater son centre là. J'ai cru qu'il allait parvenir assez vite sur le ballon avant son défenseur. Regardez.
C'est Kalimundo qui provoque le centre. Voilà. C'est Kalimundo.
Oui. C'est vrai.
Mais heureusement que c'est pas loin qui monte sur lui parce que ça va à 2 à l'heure.
Regardez là, je me suis dit hop. Ouais, non, mais c'est bon.
C'est Martin Terrier qui attire un joueur aussi, qui libère Kalimundo derrière. Enfin, tout ça, c'est très bien fait.
Ça, c'est magnifique.
Là c'est, on a pris un peu tard, mais Désiré Doué fait un énorme travail. C'est lui qui fait tout, Désiré Doué là-dessus. Oui. Ok, la passe de Bourigeaud, elle est magnifique, tout est bien fini.
Elle est dosée.
Mais celui qui déclenche tout, c'est Désiré Doué.
Et Kalimundo, donc, avait marqué un but. Est aussi celui qui cause le pénalty, bien transformé, jamais au même endroit.
Non, il varie beaucoup.
Lui aussi, il est illisible. Et là, les Nantais sont dépassés. Ça ne sera pas ça dimanche prochain. Ça, on le sait tous. Mais c'est très beau. Oui. C'est joli.
Surtout
Ça valide les choix de Julien Stéphan, qui avait laissé sur le banc Egueri et Bourigeaud.
Ses débuts à l'image de l'effectif construit par Bruno Genesio. Quand ça veut rigoler, ça rigole.
Oui, c'est ça.
Techniquement, c'est très fort, jeu en mouvement, très propre.
Alors, très rapidement, les coups de pied arrêtés, c'est plus possible. Enfin.
On en revient à la construction de l'effectif.
Tous les gens me disent moi je pars aux toilettes quand il y a un corner pour Rennes. Parce que c'est le moment où on peut y aller.
Ils sont pas mal tirés, mais il n'y a personne pour les reprendre. Autour de vous,
on vous dit pas ça. Moi, tous les gens.
Ouais, c'est des gens qui ont des
je parle pas avec les gens du moment où il va aux toilettes ou pas.
Ça, c'est sûr qu'il me dit.
Il y a une mentalité pour les joueurs qui réceptionnent les coups de pied arrêtés. Ouais, je suis désolé, quand vous n'avez pas Palois, vous pouvez dire ce que vous voulez, il va à deux à l'heure, tout ça, il a du mal à réagir. Mais enfin, dans la surface de réparation, Palois, en tout cas, il faut se le taper. C'est lui qui est le plus agressif sur ces ballons-là. Omari, c'est pas un joueur qu'on voit arracher tout le monde et mettre son coup de tronche pour essayer de marquer un but. Christophe Roux un peu plus. On va dire Théâtre à la rigueur. Mais Théâtre était sur le banc.
C'est jamais cadré.
Mais autrement, il n'y a pas de profil pour aller marquer des buts sur coup de pied arrêté, je suis d'accord.
Non, il y avait Berthoug, mais il joue pas beaucoup. Il faudra faire attention. On va y revenir contre Brest dimanche, parce que là, le jeu de tête de Brest est quand même assez important. Il faudra faire attention aux quelques fautes qu'il y a eu. Alors, je ne veux pas encore montrer du doigt la défense, mais il y a deux, trois trucs. Regardez, la faute de Christophe Roux, là, à ce moment-là.
Les cartons jaunes du Stade Rennais
étaient
bien jaunes, quand même.
Ouais, mais vous imaginez la défense. Vous imaginez quand même la défense. Enfin, personne n'en parle. Mais vous imaginez les quatre joueurs qui jouent à Nantes.
Et regardez ça. Regardez ça. La passe décisive de Guéladoué. Seule action des Nantais en première période.
Et vous jouez avec Guéladoué, oui. Bélocian. Christophe Roux et Omari. Vous imaginez, vous avez trois joueurs formés au club, le quatrième qui est tout jeune encore, qui vient de Lens, qui n'a jamais prouvé dans un club de haut tableau. Et c'est évident que vous ne pouvez pas avoir des garanties énormes avec une défense pareille. C'est impossible.
Oui.
C'est là, on en revient un peu au pari, à la construction. C'est quand même compliqué de se présenter avec un ligne arrière comme ça pour un match à 4 joueurs de la fin.
Il y avait plusieurs croyances, et je crois que Clément Gavard le disait la semaine dernière, mais qui ne se sont pas révélées être exactes de la part des dirigeants. On pensait que ça allait être la saison de l'éclosion d'Armand Omari, ça n'a pas été le cas, que Lorenz Sassignon lui aussi allait exploser et prendre la place d'Amari Traoré, au final il est parti en prêt en janvier, que Guéladoué aurait le niveau pour alors à la base être un remplaçant, maintenant il se retrouve titulaire, mais enfin il y a eu plein de paris qui se sont avérés perdants.
Alors un mot sur l'arbitrage rapide, hein, si quand même, la simulation de Lafond, ça fait 2-0, regardez, je vous l'ai mis, regardez. Ça fait 2-0.
Ouais, perd tes profils.
Alors là, il siffle et derrière il y a but, mais il y aurait eu but même sans siffler parce qu'il n'y avait plus de. Regardez, mais il ne touche pas.
Il ne touche pas du tout.
Je vous l'ai mis 15 fois.
Regardez le haut, un tout petit peu de
mais
la main.
Mais regardez, regardez bien. Hop là. Je le remets. Hop là. Allez, je le remets encore.
C'est,
hop là,
c'est Choumara bon, Matisson, c'est si je suis...
C'est pire que Guillaume Rest.
Et donc la VAR peut rien... La VAR peut rien faire là-dessus.
À Toulouse, en fait,
La VAR ne peut rien faire là-dessus, Fred, vous êtes l'homme des lois.
Malheureusement non, mais la seule chose qui aurait été possible, c'est que l'arbitre laisse jouer et qu'ensuite, accorde le but et que donc la VAR vérifie et montre qu'en fait il n'y avait rien.
Ben oui.
Mais à partir du moment où il décide de siffler tout de suite, la VAR ne peut pas revenir dessus.
Ça faisait 2-0. Vous savez comment c'est, l'arbitrage français, c'est comme quand on perd 6-0, il n'y a pas de danger additionnel. C'est comme ça.
Là, il s'est trompé, c'est tout.
On regarde les notes. Les notes, alors voilà, la moyenne de l'équipe, c'est presque 6. Vous me direz, c'est pas beaucoup. Pour un succès 3-0 à la Beaujoire, mais en même temps, ça n'a pas non plus été jusqu'à la 65e, un match exceptionnel. Il y a un seul joueur, et je pense qu'on est peut-être un peu sévère, c'est Blas, qui n'a pas la moyenne, parce qu'il est quand même impliqué sur un but, l'avant-dernière passe.
Ça vaut la moyenne.
Bon, et puis Désiré Doué, je voudrais qu'on en parle maintenant, mais comme on en a parlé toutes les semaines, et vous m'avez devancé dans votre papier ce matin, Guillaume.
J'en ai fait exprès, c'était
pour... mais vous avez, ben oui, lundi c'est Rosy ce soir. Est-ce que Doku, est-ce que finalement Doué, c'est pas le Doku de cette saison?
Je sais pas. Bon, déjà ils ont des profils quand même assez différents. Dans le sens où oui, c'est peut-être lui qui est en train de porter l'équipe et dont le jeu offensif semble dépendre d'une manière d'ailleurs peut-être un peu trop forte.
Il y a un peu une forme de désiré doué dépendance dans la création du jeu pour le Stade Rennais aujourd'hui. Mais la saison dernière, il y avait cette forme de coup dépendance pour créer du danger sur les derniers matchs de la saison. Et finalement, ça a été pour le mieux puisque Rennes les a tous gagnés ces quatre derniers matchs de la saison. Donc, on verra comment ça se terminera. Mais oui.
Fred.
Alors moi j'ai pas bien connu de Doku puisque
vous êtes croisé.
Mon sentiment de ce que j'en ai vu et que ce que je vois aussi avec Manchester City, c'est que Doué est aussi un joueur plus complet et qui est plus utile dans beaucoup de domaines du jeu, là où Doku était un attaquant pur. Et donc je pense que malheureusement, Rennes risque de ne pas profiter longtemps non plus des services de Désiré Doué, ce qui est dommage parce qu'effectivement je pense que c'est un joueur qui est extrêmement précieux dans de nombreux registres pour une équipe.
Christophe, il vous a irrité une partie de la saison. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même qu'il a fait des progrès dans le jeu collectif et dans sa façon de lâcher le ballon ou de se trouver sur le terrain?
Désiré Doué, d'abord, sur ce match-là, c'est simple. Ça résume tout le joueur qu'il est. C'est 7 dribbles réussis sur 8 tentés. C'est évidemment de très loin. C'était des stats à la Doku de l'année dernière. Et c'est 20 ballons perdus. C'est le plus de ballons perdus par le Stade Rennais. C'est ce joueur-là. Mais évidemment, qu'il est pur. C'est normal quand tu tentes et tu prends des risques comme il fait. Il est pur son jeu. Il m'agaçait des fois en première partie de saison. Il mûrit tout simplement sur cette saison.
Oui.
Et il a pris énormément de confiance. La confiance fait que il force pas son jeu. Je trouvais qu'il forçait trop son jeu. À prendre confiance, on lui a dit aussi par ses entraîneurs, épure ton jeu, ça te servira pour toi-même. Et c'est ce qui se passe en ce moment.
Ah oui, non,
il n'a pas encore 19 ans. Hein. Ouais. Faut le rappeler parce que quand on est frustré, énervé par ce qu'il fait. Il n'a pas encore 19 ans. Je pense qu'en fait, le problème à Rennes, c'est qu'on forme des cracks, mais il faut le dire, qu'on a des Camavinga très forts, extrêmement tôt. Ousmane Dembélé, pareil. Et aujourd'hui, Désiré Doué. Donc c'est vrai que s'il y a une frustration de se dire on ne va pas en profiter, mais c'est parce qu'aussi, ils sont très performants très tôt. Alors très performants, peut-être c'est relatif, mais en tout cas, suffisamment performants pour titulaire indiscutable d'une équipe qui joue quand même plutôt le haut de tableau en Ligue 1.
Enfin, après, il décide de rester pour revenir un peu, je veux dire.
De toute façon,
mais est-ce qu'il en a besoin?
Vous ne pourrez pas le retenir, parce que ne serait-ce que de toute façon...
Il lui reste deux ans.
Tous les scouts sont dessus depuis 5 ans, enfin on va dire 4-5 ans. Statistiquement parlant, c'est le meilleur jeune né en 2005 ou après en Europe aujourd'hui, devant Lamine Yamal. C'est factuel, 2024, les stats sont là. Donc ça, évidemment, forcément, les gens ils regardent ça quand même, les recruteurs. Voilà, et puis il a pris un agent qui s'appelle Moussa Sissoko, qui est parfaitement implanté dans tous les gros clubs européens, notamment le PSG. C'est pour ça qu'il y a des rumeurs avec le PSG.
Oui, il aurait dit à son agent « je veux aller au PSG ».
Non, mais c'est parce que Moussa Sissoko peut le faire rentrer au PSG. Voilà, c'est tout. C'est une possibilité. Après, les dirigeants parisiens décideront ou pas. Et puis, effectivement, ils ont les moyens de le faire. Parce qu'il y a très peu de clubs qui vont avoir les moyens de faire Désiré Doué. On parle de Leverkusen, qui est très intéressé. Ils vont jouer avec des champions, certes.
Mais surtout,
les moyens de faire Désiré Doué.
Parce que Wirtz partira pas en plus, alors que ça aurait été un remplaçant naturel.
C'est 50 millions.
Oui, autour de 50 millions, je pense.
Ouais, mais il va peut-être rester.
Mais non, deux ans de contrat.
Mais quoi, mais non.
Pourquoi? Moi, je suis d'accord avec Vincent, il peut rester. Qu'il arrive,
s'il prolonge pas.
Mais c'est un choix. Mais pourquoi? Il lui restera l'été prochain, il lui restera quand même un an, vous pourrez toujours le vendre, il sera pas gratuit.
Oui, mais la valeur du joueur sera différente.
S'il explose comme ça, même avec un an, vous inquiétez pas.
Avec un stade,
vous y retrouverez, je pense, financièrement.
Il ne fera pas l'Europe, peut-être.
Ah bah, Désiré Doué, il vous a rien coûté.
Mais Désiré Doué, il vous a rien coûté en plus. Je veux dire, c'est pas comme si vous étiez en train de vous dire quelle plus-value je vais faire sur le joueur. C'est que la plus-value, c'est des gens que vous avez formés. Et votre centre de formation, vous l'avez plus que rentabilisé depuis que vous l'avez créé avec toutes les ventes de joueurs formés au club.
Donc, en tous les cas,
s'il
s'en va cet été, ce sera pour a priori un gros club européen.
Oui, oui.
Ce sera le haut du panier, ce sera le FC Barcelone, le PSG, il y a le Bayern de Munich aussi, je pense que c'est pas très loin. Voilà, c'est des gros.
Je me projette comme ça, vous calez souvent à la Piverdière. C'est qui le prochain crack alors?
Oula, bonne question. Et d'ailleurs, les échos ne sont pas très positifs à ce sujet.
Ah oui.
Récemment, on m'a dit attention, la nouvelle génération qui arrive, on va dire celle du nouveau directeur du centre de formation, il y a des gens qui ont des doutes sur le fait qu'il y ait peut-être.
Il y a peut-être un trou.
Il y a peut-être un trou.
On verra. Ça fait quand même quelques années que régulièrement on voit arriver des top joueurs.
Il y a Jérémy Jacquet, par exemple, on verra, mais dans un autre style qui est un défenseur. Moi, je crois beaucoup à ce joueur.
D'accord.
Non, mais une pépite à la Dembélé ou à la Désiré Doué, attaquant.
Il y a le petit Amadou Diallo qui avait flambé en Gambardella, mais il est un peu sujet aux blessures pour le moment. Il a du mal à enchaîner. Donc.
Bon, je veux qu'on parle de Brest. Alors, j'aurais voulu vous dire un mot sur Terrier, mais on y reviendra. Parce que. Si, on peut montrer l'image de Terrier. Juste, j'ai une question comme ça, rapidement. Terrier, on se demande pourquoi il ne tire plus. Alors moi, je me demande, regardez, il fait des belles choses. Il va s'ouvrir le chemin, alors, parce que les Nantais s'écartent. Très bon appel, d'ailleurs, soit dit en passant.
Et il lui donne pas dans le bon
timing. Il lui donne pas dans le bon timing. Là, regardez. Là, il s'ouvre le chemin. Mais tire. Ah non. Il est très altruiste. Derrière, il se fait un peu... Je vous mets un autre exemple. Alors là, c'est peut-être moins net, mais nous, dans la tribune, il dit « Vas-y !» Oh bah non, il la passe encore.
Mais il fait un bon match, ouais, moi je suis d'accord. C'est ça qui va le remettre en confiance, de faire des bons matchs.
C'est ça, il y a un problème de confiance. Je pense que peut-être que s'il ne tire pas, c'est qu'il n'est pas totalement en confiance. Il restait sur des prestations quand même assez mièvres. Il avait été suspendu contre Toulouse. Voilà, et puis il n'a pas non plus retrouvé. C'est pas le Terrier que vous avez connu, vous, ici. Voilà, évidemment.
Mais ça, ça revient
un peu. Dans le jeu, ça y ressemble un peu. Il manque que les buts, parce que là, le match qu'il fait là, c'était les matchs qu'il faisait quand il arrivait bien à se placer entre les lignes, à prendre le ballon toujours vers l'avant, à mettre le jeu dans le bon sens. Et c'est ce qu'il a fait, je trouve.
Très disponible. Après, on revient au truc, avec l'opposition adverse, pas d'impact, donc il a pu jouer à sa guise. Disponible, j'ai le temps de me retourner, d'orienter le jeu, voilà, du Terrier dans le texte.
On regarde les tweets et on parle de Brest. Les tweets. Alors, pêche dehors, ça fait toujours du bien, surtout à domicile. Moi, celle-là m'a fait rire, elle est sobre. Voilà. On rend hommage, on dit, on cherchait à comprendre le parquage visiteur. Bah, comme un indice, comme quoi la Beaujoire est à nous, le V de la victoire, c'est le V du parquage, évidemment, ouais, et oui. Et puis un petit hommage à Clément Gavard. Voilà, ça doit être l'équivalent d'un quatrième but encaissé quand tu es supporter nantais et que tu lis la décla de Comboiré. C'est pas notre championnat, il n'y a pas de honte à le dire aujourd'hui, Rennes, quand ils sont à ce niveau-là.
C'est le Barça, quoi.
C'est le Barça. Après, il a dit, ils ont tous des attaquants à 20 millions, on ne peut rien faire contre des équipes comme ça.
Sur le fond, après, on ne peut pas l'enlever, qu'effectivement, les joueurs rennais sont censés
Il peut quand même fracasser son équipe, qui était en dedans de tout, surtout.
Oui. Alors, Brest arrive. Brest arrive, et notre spécialiste ici, c'est Frédéric Happ, qui était hier encore...
Docteur Brestologie.
Dans le Penarbed. Alors, ces Brestois, ils sont comment avant de venir à Rennes dimanche 17h?
Bien qu'ils s'en dédient, je pense qu'ils sont un peu dans le dur quand même. Depuis 7 matchs, la dynamique n'est pas très bonne. Ils ont des victoires difficiles à Lorient, une contre Metz où ils mènent 4-1, ils sont rattrapés à 4-3. Ils ne sont pas sereins sur la fin. Ils perdent à Lens, ils perdent à Lyon avec des circonstances particulières. Ils perdent hier contre Monaco, il n'y avait pas grand-chose à dire. À Lens, c'était un petit peu injuste d'ailleurs. Ils auraient mérité sans doute de revenir au moins avec un point. Mais en tout cas, en termes comptables, le compteur tourne moins vite. Et d'ailleurs, ils ont perdu la deuxième place hier. Ils pourraient perdre la troisième mercredi. Donc, en fonction du résultat de Monaco-Lille. Donc, ils n'arrivent pas au mieux, même si ça reste quand même une équipe qui a beaucoup de certitudes.
Oui, mais ils ont des certitudes. Aujourd'hui, ils seront européens. Est-ce qu'ils ne seraient pas déçus, finalement, de ne pas faire cette Ligue des champions qui leur a tendu les bras quelques semaines?
Un peu de marche sur la cinquième, quand même, non?
Oui, c'est vrai que la quatrième place t'offre un strapontin.
Pour Brest, un barrage, c'est peut-être plus compliqué que pour
d'autres clubs.
Ils ont 6 points d'avance sur Nice, le cinquième.
Oui, d'autant que Lille va à fond.
Nice, c'est un match en moins.
Que Lille passe devant Brest.
Mais Nice, c'est un match en moins.
Moi, si Nice gagne à Marseille, ils reviennent à 3 points de Brest. Donc il y aura quand même un peu plus. Ça fera
mais beaucoup de respect pour leur parcours. Mais bon, au bout d'un moment... sincèrement, ça me gonfle un peu cette. Alors, à juste titre, sur plein d'aspects, effectivement.
La paranoïa, c'est ça?
Ouais, la paranoïa. Puis le côté un peu victimologie, un peu pleureur, pleureux sur les côtés, encore une fois. Moi, je trouve ça un peu fatigant. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a eu des décisions arbitrales plus que litigieuses. Moi, j'ai le souvenir aussi de quelques semaines où ils avaient été favorisés sur 3 matchs d'affilée avec des décisions favorables, où ils en avaient bénéficié pour le coup. Et là, ils étaient très contents. Donc, au bout d'un moment, je dis pas que ça s'équilibre. Peut-être que ça s'équilibrera pas sur la saison pour eux. Mais il faut arrêter là tout le temps.
En fait,
ça les dessert en plus. Ça les dessert.
Moi je pense que c'est le signe d'un club qui n'est pas du tout habitué aussi à se retrouver là et qui quelque part est un peu en train de paniquer sur ce rêve de Ligue des Champions, de qualif direct, et qui sent peut-être que ça ne tourne pas exactement comme il aimerait. Et ça peut être un signe que ça ne tourne pas plus très très rond.
Ils sont moins bien, Christophe. 2 matchs consécutifs sans victoire. C'est quand même cette équipe qui voulait supprimer la VAR, hein, c'est le président qui écrit pour qu'il n'y ait plus de VAR. Cette équipe qui voulait arrêter le match contre Rennes il y a quelques saisons parce que ça ne tournait pas.
Moi, ce que je trouve en tout cas, c'est l'équipe qui, alors je vais choquer peut-être certains, collectivement, je trouve que c'est la la plus fiable, la plus jolie presque à regarder de Ligue 1. Collectivement, individuellement.
La plus cohérente, moi, je dirais.
La plus cohérente. On sait ce qu'ils vont faire. Hier, ils se font battre par Monaco parce qu'ils se font manger dans les impacts physiques avec les, moi, je trouve, avec les Monégasques. Et donc, c'est là où Rennes va devoir aussi lever le curseur, et ça va être autre chose que, le, que les petits Nantais hein, qu'on a vu ce week-end. C'est qu'il va falloir aller dans, au combat face à cette équipe qui en envoie au milieu de terrain. Waouh!
De toute façon, il y a des stats très simples. Hein. C'est l'équipe qui dispute le plus de duels, celle qui en remporte le plus au sol et aérien. Et c'est vrai que donc, c'est une équipe où le curseur physique est assez élevé, comme tu le dis. Hier, ils ont aussi beaucoup souffert de l'absence de Lys. Hein. Il est embrassé en défense et de Lesmelou au milieu.
Qui revient
normalement devrait être là. Enfin, Lesmelou, c'est quasiment une certitude puisque c'est une suspension. Brassier, je pense que ce sera remis puisque c'était plus par précaution. Et là, effectivement, je pense que le Rennes qu'affrontera, le Brest qu'affrontera Rennes sera sans doute supérieur à celui qu'a affronté Monaco.
C'est une équipe très intense, c'est vrai, fait sur le plan athlétique. Et là, on voit quand même aussi que ça commence un peu à tirer. Le match de Monaco, ils l'ont raté dans les grandes largeurs. Ils ont quand même raté. Ils ont joué une équipe effectivement physique aussi. Enfin, Rennes en connaît un rayon sur Monaco. Hein. Ils se sont fait défoncer au milieu de terrain sur les deux matchs. Voilà, donc il y a un peu ça. C'est vrai que le combat athlétique, enfin en tout cas le défi de l'intensité, ça va être capital. Et oui. Brest est quand même un peu en dessous, je trouve, dans ce
parce niveau-là. Qu'ils n'ont pas un gros effectif très large et que ce sont toujours les mêmes qui ont joué et que peut-être que ça commence à tirer dur.
Il y a quand même un peu de banc quand tout le monde est là. Et en fait, ils ont aussi eu la chance d'avoir très peu de blessés tout au long de la saison. En fait, je crois qu'ils sont à 2,5 blessés de moyenne par match. Mais en fait, c'est Jordan Amavi et Loïc Rémy. Mais par contre, je trouve qu'ils ont quand même les caractéristiques d'une équipe qui est vraiment pas faite pour le Stade Rennais. On peut galérer face à ce genre d'équipe. Très intense, mais hyper cohérent.
Ils vont pas jouer derrière.
Non, mais Fred parlait du jeu derrière.
Par contre, ils sont obligés de jouer, oui.
Ouais, on va voir.
Ils vont pas attendre.
Il faut voir l'état psychologique, encore une fois, de l'équipe. Là, c'est vraiment la tête qui joue sur le sprint. On voit clairement là que ça leur coûte cher, quand même, la gestion émotionnelle depuis deux matchs. Comment ils vont gérer le match à Rennes, qui reste un derby quand même, où ils se savent attendus après deux défaites.
Ils gagnent jamais.
Attendez, 37 ans sans victoire pour Brest à Rennes. 37 ans.
Il faut quand même voir tout ça. Je pense que le côté footballistique, le rapport de force, il est favorable à Brest, c'est clair.
Vu que ça change pas.
Et 14 matchs sans défaite, toute compétition confondue pour le Stade Rennais.
L'intensité, c'est refaire pour Rennes le match de Marseille en championnat cette saison. Rappelez-vous du match de Monaco, la dernière décisive à l'avant-dernière journée. Enfin, il va falloir mettre une intensité. Alors Milan, vous voulez me dire, c'est peut-être un match à part, mais l'intensité qu'on a vue de la part des joueurs rennais contre Milan, il va falloir mettre ça face à Brest, c'est une évidence.
Julien Stéphan a déjà, à Nantes, après le match, parlé un peu de son adversaire brestois. Écoutez.
Une équipe de Brest qui presse pas mal, qui anime aussi énormément sur les côtés, qui a avec Mounier, Le Doiron, Satriano, des joueurs de surface très performants dans le domaine aérien, voilà, qui envoient beaucoup de centres. Donc il y a certaines problématiques qu'on va devoir gérer et qui vont déjà animer une bonne partie de notre semaine d'entraînement.
Voilà, moi, les deuxièmes ballons et les duels de la tête dans notre propre surface m'effraient un peu.
Et puis les latéraux, parce que c'est vrai que ça passe beaucoup par les côtés, ça a des schémas de passes qui sont extrêmement rodés et très difficiles à contrer. Il y a un Del Castillo qui a complètement explosé, qui est peut-être en sur-régime, ça l'avenir le dira, mais en tout cas, qui est vraiment excellent. Donc le danger sera un peu partout sur le terrain pour Rennes dimanche.
Ouais, avec des retours peut-être côté rennais, des changements, du turnover.
Bourigeaud qui retrouverait sa place, non, j'imagine, je sais pas.
Peut-être, c'est pas certain quand même, hein. Moi, j'en suis pas convaincu à 100% qu'il. C'est effectivement, ça peut être assez logique.
Moi, j'avais déjà pas compris sa mise au banc parce que je rappelle que c'est le meilleur buteur et le meilleur passeur du Stade Rennais cette saison, quand même. Donc, mais il faut m'expliquer parce que si c'est lui le problème, c'est-à-dire que tous les autres sont plus un problème. Hein. Si
vous non, mais il y a le
buteur
fait,
votre meilleur passeur.
Le fait est resté sur le banc.
Du 11, c'est-à-dire que tous les autres, alors, offensivement, ils sont pires que lui.
Le fait est resté sur le banc et votre ami Le Fait est resté sur le banc avant.
Resté sur le banc.
Moi, j'ai un petit doute sur le fait qu'il reste encore sur le banc contre Brest. Donc voilà, est-ce que vous avez joué
Est-ce que Théâtre revient en défense centrale de la tête?
J'allais dire, face à une équipe qui est si forte sur le domaine aérien, je ne suis pas persuadé que Théâtre soit titulaire dans l'axe de la défense. Parce que c'est quand même son gros point faible.
Ah bon?
Mais il est nul de la tête.
Moi je trouve qu'il se bat en tout cas de la tête par rapport à d'autres qui se cachent.
Il y a des stats dans l'axe. Il y a des stats des trois centraux de Rennes en tout cas sur les duels.
Moi j'ai pas cet avis-là, mais.
Non, mais et puis il renvoie tous les ballons de la tête dans l'axe. Les deux ballons qu'il renvoie contre Toulouse dans l'axe. Mais il ferme les yeux quand il fait des têtes.
Il prend des ballons de la tête plus que d'autres.
Bon,
on va prendre beaucoup plus que
Truffert va revenir et évidemment on pense que Blas va sortir du du 11 au départ.
Voilà. Après Bourigeaud, vous faites votre équipe. Bourigeaud peut-être sur un côté, à moins qu'il joue avec un milieu à 3 avec deux relayeurs qui seraient Lefebvre et Bourigeaud devant Santa Maria.
Bon, on va passer au prono, juste pour dire quand même que les tarifs sont un peu excessifs.
Ah oui, non, délirant.
Là, moi je vois que des gens qui me disent c'est trop cher.
Non mais c'est délirant, enfin surtout vu l'état du salarié en ce moment.
Voilà, c'est voilà, donc faut pas que ça monte quand même, c'est un derby, c'est vrai, il y a une suprématie régionale, il faut que ça reste quand même dans des proportions.
C'était peut-être pour faire payer les Finistériens qui, on sait, parfois ont un peu des oursins dans les poches.
Surtout les, surtout les Léonards, hein, Christophe Penven.
Pas du tout.
Ah non, vous n'êtes pas côté Léonard, vous.
Non. Je suis très fort, moi.
Les pronos, moi je suis là. Alors, il y a 9 personnes qui avaient donné la victoire de Rennes. Hein. Alors, François Rosy, le lundi, c'est Rosy, mais le bas de classement, c'est Rosy aussi. C'est un peu plus compliqué. On a Frédéric Capp qui est clairement au milieu, tranquillement. Ouais. Très rapidement, je vous demande vos pronos. Je vois le temps qui file, c'est de ma faute. François, vous qui êtes dernier.
Bah, malheureusement, je vais pronostiquer une victoire de Rennes. Donc,
OK.
Mais non. C'est pas bon signe.
Vous ne serez plus dernier. 2-1. 2-1 pour Rennes, ok. Je dis tout de suite que je donne le même score que vous.
Hein. Ah, moi, je vais te mettre ça aussi.
Bah, vous avez le droit, Christophe.
Allez, 2-1 alors.
2-1, tout le monde donne 2-1. Attention.
Allez, oui, vas-y.
Oui, Guillaume, allez, 2-1.
Tournée générale.
Moi, je vais vous surprendre, mais je vais mettre 2-0 pour Rennes, en fait.
D'accord. Et pourtant, c'est vous qui connaissez le mieux Brest. Eh bien, vous savez,
oui,
ça,
enfin, ça nous va droit au cœur. Ça garantit pas de la bêtise. Hein.
On va surveiller ça de près. Merci les garçons d'avoir été là. C'est merci à vous de nous avoir suivis. On sera là lundi prochain pour débriefer le deuxième derby en 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. Allez Rennes.
Coup d'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie. Fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
Pigeot Immobilier, La Française Immobilière, Habitants, Rennes Parc Expo, le groupe Pigeot, des métiers multiples, un acteur unique.